Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue au programme de ce dimanche 13 février. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports et le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Les grands titres de ce 13 février, le gouvernement australien ordonne au personnel de l'ambassade d'Australie de quitter la capitale ukrainienne. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud entre encore plus en minorité avec la perte de la circonscription de Bega hier aux élections partielles de l'État. Les convois des libertés à travers le monde et une grosse foule hier à Canberra de ses opposants à la vaccination. La crise ukrainienne et le gouvernement australien a ordonné au personnel de l'ambassade d'Australie à Kiev de partir et a temporairement suspendu ses opérations à l'ambassade. La ministre des Affaires étrangères, Marisa Payne, a évoqué la détérioration de la situation sécuritaire causée par le nombre de troupes russes à la frontière ukrainienne. Le premier ministre australien, Scott Morrison, a déclaré que le gouvernement conseillait aux Australiens de quitter l'Ukraine depuis décembre dernier.
We have three remaining staff and they have been instructed now to move as other Five Eyes countries are to Lviv. And you would have seen the announcement from the United States as well and Canada. And that is the next stage in Australians being moved to safety. I want to thank particularly those three Australian based staff who have been there supporting in a consular way the many Australians, many of whom are joint citizens, dual citizens, who are in Ukraine. But the situation, as you are all hearing as well, is deteriorating and is reaching a very dangerous stage.
Et puis, il y a eu l'entretien téléphonique du président américain Joe Biden avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le président américain a renouvelé son appel à une solution diplomatique. Les précisions de Lubna Anaki pour RFI.
Un échange téléphonique riche et professionnel. Selon un communiqué de la Maison-Blanche, le président américain, je cite, était très clair avec son homologue russe. Si Moscou envahit l'Ukraine, les États-Unis et leurs alliés réagiront de manière résolue et les sanctions vont coûter cher à Moscou. Une mise en garde que Joe Biden a déjà lancée à Vladimir Poutine lors de leurs précédents échanges. Il a également insisté sur le fait que l'option de la diplomatie restait privilégiée. Un peu plus tôt dans la journée, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères des deux pays se sont également entretenus. Mais au final, ces efforts diplomatiques ne changent rien à la situation. Selon un haut responsable américain, les Russes ne semblent pas vouloir changer de position ou retirer leur armée positionnée près de la frontière ukrainienne. Les Américains restent persuadés que la Russie pourrait lancer une invasion à tout moment. Ils ont d'ailleurs ordonné le départ de leur personnel diplomatique de l'ambassade de Kiev, ainsi que le retrait des soldats américains présents sur le territoire. 160 conseillers militaires qui étaient chargés d'entraîner l'armée ukrainienne.
En Australie à nouveau, les élections partielles en Nouvelle-Galles du Sud, alors que les votes par voie postale doivent encore être comptés, les résultats montrent jusqu'à présent que le gouvernement Perrotté a perdu la circonscription de Bega dans l'une des quatre élections partielles hier, plongeant davantage la coalition dans la minorité. Les électeurs de Bega, Monaro, Strathfield et Willoughby ont tous dû choisir de nouveaux représentants quatre mois après la démission soudaine de l'ancienne chef de Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, ce qui a aussi incité trois autres députés à faire la même chose. Malgré un revirement vers les travaillistes, les libéraux semblent prêts à garder Willoughby et les nationaux sont sur la bonne voie pour conserver Monaro, à Strathfield, Jason Yatsenley du Parti travailliste mène contre la libérale Bridget Scar et il devrait gagner grâce au vote préférentiel. Yatsenley a remercié les partisans d'avoir poursuivi leur travail sans crainte.
It is not okay that I and the Labour volunteers were subject to racist comments from opponents at polling booths whispered into the ears of voters.
Le Victoria a signalé 18 décès du COVID-19 et 7223 infections alors que les hôpitaux de tout l'État se préparent à reprendre les soins de santé non essentiels. Il y a 465 personnes dans les hôpitaux, 181 patients sont en soins intensifs. Les autorités sanitaires de la Nouvelle-Galles du Sud déclarent que 1614 personnes sont à l'hôpital avec le COVID-19, 93 en soins intensifs. La Nouvelle-Galles du Sud a signalé 6686 nouveaux cas acquis localement et 22 décès liés au virus. Le Queensland a signalé 7311 nouveaux cas de coronavirus et 4 décès depuis hier. 496 personnes sont à l'hôpital et 4 personnes en soins intensif. La sénatrice des travaillistes, Christina Keneally, a déclaré que le Premier ministre tentait de vouloir profiter des votes des manifestants anti-vaccins. Des foules ont défilé hier sur le Parlement, fermant les rues autour de la capitale et mettant la police du territoire en état d'alerte, alors que la force policière surveillait la foule avec des drones et des hélicoptères. Scott Morrison a déclaré qu'il comprenait les préoccupations des milliers de manifestants et a souligné que la plupart des mandats de vaccination étaient imposés par les gouvernements des États. La sénatrice Christina Keneally a déclaré sur l'ABC que la grosse présence des forces de sécurité indiquait un degré d'inquiétude quant à une éventuelle violence, mais le Premier ministre Scott Morrison n'a pas condamné l'action, selon elle.
Yesterday we saw the Prime Minister saying he understood, and really your problem is with the states, not with me. This is a Prime Minister who set up the National Cabinet, who stood there and took credit for when the Premiers took measures. As soon as a group of protesters rocks into town critical of some of those decisions, he points the fingers at the Premiers, says it's not my fault, it's theirs. Why? He wants to harvest the second preferences of these protesters. Well.
Les manifestants anti-vaccins sont entrés dans une quatrième journée d'occupation des pelouses parlementaires en Nouvelle-Zélande, alors que le nombre de cas de COVID-19 continue d'atteindre des niveaux records. Vendredi, les responsables de santé ont signalé 446 cas communautaires, confirmant une tendance à la hausse qui a commencé il y a 3 semaines, lorsque la transmission du variant Omicron a été détectée pour la première fois. Les 446 cas, dont tous sauf 3 se trouvent dans l'île du Nord, dont 340 à Auckland, et constituent un record quotidien pour le pays. À Wellington, 120 manifestants protestant contre la réponse du gouvernement à la pandémie ont été arrêtés après que le président du Parlement, Trevor Mallard, leur a ordonné de partir. Il a ensuite ordonné au personnel d'arroser la pelouse et aussi d'arroser les manifestants et de jouer des airs de Barry Manilow entrecoupés de messages sur les vaccins. Les manifestants ont répondu en jouant leurs propres chansons, y compris les Twisted Sisters, We Are Not Gonna Take It. À Paris, les convois de la liberté ont atteint hier les Champs-Élysées. Les forces de l'ordre sont intervenues rapidement pour les disperser. Marine de la Moissonnière, RFI.
Drapeau tricolore aux fenêtres, une voiture blanche venue de Montpellier fait le tour de l'Arc de Triomphe. Très vite, des policiers interpellent sa conductrice qui part en garde à vue. La passagère, elle, reste sur le trottoir.
Ça a été très violent. J'ai été obligée de dire « Oh, doucement, doucement !» Mais je suis sûre que je ne serais pas sortie. Il aurait pu me frapper. Je me suis sentie vraiment en danger. J'en tremble encore. J'en tremble.
Des dizaines de camping-cars, de motos et de voitures continuent de défier les forces de l'ordre, place de l'Étoile, sous les applaudissements de manifestants venus dire leur ras-le-bol à l'image de Damien, 32 ans, ingénieur en informatique en banlieue parisienne.
Ce qui se passe, c'est qu'on est pacifique, on est là pour faire la fête, dire aux gens qu'on les aime, on est fraternel, et qu'on n'en peut plus de ces deux années-là de dictature sanitaire. On ne peut plus aller boire un café si on n'autorise pas de se faire une piqûre. Ma fille, elle est née il y a 2 ans, je n'ai pas pu aller la voir les 3 premiers jours parce qu'ils ont imposé qu'on était tous confinés. Nous sommes le peuple, nous voulons décider de comment nous allons vivre.
Les policiers finissent par disperser tout le monde à coups de gaz lacrymogène. Certains membres des convois de la liberté décident alors de rejoindre les cortèges des opposants au pass vaccinal dont les manifestations à pied avaient été autorisées.
Et maintenant, un mot sur la situation au Canada, sur les convois de liberté qui bloquent le pont Ambassada entre les États-Unis et le Canada. Les précisions de Claire Broadhurst pour RFI.
Des dizaines d'agents et de véhicules sont arrivés sur place plus tôt dans la journée. Ils ont pris position face à la 50aine de manifestants installés dans leurs camions et leurs pick-up pour paralyser le pont qui relie Windsor en Ontario à la ville américaine de Détroit. La Cour supérieure de l'Ontario a ordonné vendredi le départ de ces manifestants installés depuis lundi sur cet axe frontalier majeur entre les deux pays voisins américains, un blocage qui a poussé Washington à intervenir auprès du gouvernement Trudeau. À la suite de l'injonction, la police de Windsor a publié un communiqué pour informer clairement les manifestants que le fait de bloquer le passage de la frontière constitue une infraction pénale. La police a ajouté qu'une telle condamnation pouvait entraîner la saisie des véhicules et l'impossibilité d'entrer aux États-Unis. Le blocage de cet axe a entraîné des perturbations pour l'industrie automobile des deux côtés de la frontière. Les usines de General Motors, Ford, Toyota et Honda ont été contraintes d'arrêter la production et d'annuler des équipes de travail en raison de la pénurie de pièces causée par le blocus. Dans un discours prononcé vendredi, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a exhorté les camionneurs à rentrer chez eux maintenant, affirmant que leur frustration à l'égard des mesures Covid avait été entendue.
En Afrique, l'armée française annonce la mort de 40 djihadistes tués au Burkina Faso. Les précisions de Franck Alexandre pour RFI.
Pour retrouver ce groupe djihadiste dans l'immensité du parc naturel du W, Barkhane avait envoyé un avion de renseignement. Il a permis ce jeudi d'identifier la colonne djihadiste circulant à moto. Venue du Bénin, elle était déjà passée sur le territoire du Burkina. Dans la matinée du 10 février, un drone a mis hors de combat une dizaine d'hommes. Une patrouille de Mirage 2000 a procédé à 3 nouvelles frappes, neutralisant une 30aine de terroristes, indique l'état-major des armées dans son communiqué. Les attaques coordonnées menées le 8 et 9 février par ce groupe djihadiste confirment les craintes de voir le terrorisme progresser vers la côte. Si la France pourrait bien annoncer dans les prochains jours le retrait de ses troupes du Mali, la priorité de Paris reste de poursuivre le combat aux côtés des pays africains, en particulier ceux du Golfe de Guinée. Thierry Burkhard, chef d'état-major des armées, l'a rappelé avec insistance mardi dernier lors d'une visite en Côte d'Ivoire.
En Australie à nouveau, The Healing Foundation a témoigné un profond respect et une profonde gratitude aux survivants des Stolen Generations, à leurs familles et à leur communauté. Cela fait 14 ans, le 13 février 2008, que le Premier ministre Kevin Rudd a présenté les excuses au Parlement aux membres des générations volées de la communauté aborigène. La fondation a été créée après les excuses pour permettre aux survivants de partager leur histoire. La directrice générale du Healing Foundation, Fiona Cornforth, a déclaré que les excuses avaient validé les expériences des survivants après des décennies d'ignorance.
It meant so much to the healing journeys, in particular of those who have suffered and continue to suffer that enduring grief, loss and trauma.
On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 34 degrés, Adélaïde 33, Melbourne 34, Hobart 30, Canberra 25, Sydney 26, Brisbane 29, Darwin 32 et à Alice Springs, maximale de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce 13 février, le gouvernement australien ordonne au personnel de l'ambassade d'Australie de quitter la capitale ukrainienne. Les convois des libertés à travers le monde et grosse foule hier à Canberra de ses opposants à la vaccination. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud entre encore plus en minorité avec la perte du siège de Bega.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord les JO de Pékin et le bilan d'hier avec Marie-Amélie Motte pour RFI.
Quelques résultats à vous donner. La médaille d'argent de Quentin Fillon-Maillet pour commencer. C'est du biathlon, l'épreuve du sprint. Après le titre sur l'individuel et une autre médaille d'argent sur le relais mixte, le Français monte à nouveau sur la deuxième marche du podium, devancé par la légende norvégienne Johannes Bø. Et puis du patinage artistique, c'est bien parti pour Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Le duo français a amélioré son propre record du monde de danse rythmique. Il prend ainsi la tête de la compétition avant l'épreuve de danse libre lundi. Et puis demain, place au slalom géant en ski alpin. On attend notamment le Suisse Marco Odermatt et les Français Alexis Pinturo et Mathieu Fèvre.
On passe au foot maintenant avec le mondial des clubs et la victoire de Chelsea contre Palmeiras. Marie-Amélie Motte et Philippe Auclair pour RFI.
Philippe, victoire 2-1 donc de Chelsea, un match avec un drôle de scénario.
Très bizarre en effet, parce que c'est un match qui a mis du temps à trouver son rythme, son tempo. Une équipe de Palmeiras très regroupée en arrière, jouant 7-4-1 ou 5-3-2 comme vous voudrez, et une équipe de Chelsea qui avait du mal à faire circuler le ballon avec sa vélocité habituelle. Et du coup, on se demandait, ça pourrait être très piégeux pour cette équipe des Blues, qui sur le papier est évidemment largement supérieure aux champions d'Amérique du Sud. Lorsque Romelu Lukaku ouvre le score à la 54e minute, un superbe coup de casque sur un centre de Callum Hudson-Odoi, on se dit bon, ça y est, maintenant la supériorité technique de Chelsea devrait faire en sorte qu'il puisse contrôler cette rencontre, mais pas du tout. Une main de Thiago Silva dans la surface 9 minutes plus tard, Rafael Veiga, qui avait déjà marqué en demi-finale pour Palmeiras, est là, transforme le penalty, un partout. De nouveau, Chelsea paraît un petit peu en difficulté, balbutie son football, un partout fin du temps réglementaire, prolongation, et puis à la 115e minute, alors qu'on pensait peut-être arriver au tir au but, un penalty, cette fois-ci pour une main de Luan dans la surface de réparation. Kai Havertz, très calmement, envoie le gardien Weverton de Palmeiras du mauvais côté, transforme ce penalty 2-1. Et on croyait au bout de nos peines, Marie-Amélie, mais pour le pauvre Luan, lui qui avait fait cette main qui a donné l'occasion à Chelsea de mener par 2-1 et qui a été expulsé en toute fin de rencontre pour avoir fauché Havertz qui partait au but et donc avoir anéanti une occasion franche de but. Et donc Palmeiras a terminé à 10. Et Chelsea est donc champion du monde après un drôle de match compliqué, mais je peux vous garantir que Thomas Tuchel était aux anges au coup de sifflet final.
Eh oui, parce que ce nouveau trophée, c'est le troisième de Thomas Tuchel depuis son arrivée. Ça commence à faire pas mal. Et puis c'est un trophée de plus aussi au palmarès déjà bien garni des Blues.
C'était le seul qui leur manquait en fait parmi les trophées internationaux, puisqu'ils avaient déjà remporté deux fois la Ligue des Champions, ils avaient remporté deux fois la Coupe des Coupes, la défunte et regrettée Coupe des Coupes, deux Ligue Europa équivalent Coupe de l'UEFA et deux Super Coupes d'Europe. Et là, il leur manquait la Coupe du Monde des clubs qu'ils avaient déjà disputée une fois. C'était en 2012 et c'était contre une autre équipe de São Paulo. Corinthians, et ils avaient perdu. Donc on se disait, oulala, mauvaise tradition, pas du tout. Thomas Tuchel est là. Thomas Tuchel qui, au passage, a disputé 4 finales, on a remporté 3. Depuis qu'il est arrivé du PSG à Chelsea, autant dire que c'est un parcours absolument exceptionnel pour le technicien allemand.
Le championnat d'Angleterre, la 24e journée avec la victoire du leader Manchester City contre Norwich, 4-0. Et Manchester United et Southampton ont fait match nul, 1-1. On passe en France avec 2 matchs hier, avec Lyon qui a été battu par Nice 2-0 et Lille qui s'est imposé contre Montpellier. Prochain match entre le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid en Ligue des Champions, ce sera pour mardi. Marie-Amélie Motte et Sarah Loubacouche pour RFI.
Le PSG qui a difficilement battu Rennes hier soir 1-0, un but de Kylian Mbappé dans les toutes dernières secondes. Alors il faut dire que Paris n'aborde pas cette rencontre face à Madrid dans les meilleures conditions. Neymar est toujours blessé, il devrait être sur le banc mardi. Et la semaine parisienne a été rythmée par le mécontentement des ultras. Ils ont publié un communiqué acerbe contre la direction et contre les joueurs. Nous ne reconnaissons plus notre club qui semble avoir perdu son ADN. Et hier au Parc des Princes, les ultras sont arrivés dans la tribune Auteuil une demi-heure après le coup d'envoi. Ils ont déployé des banderoles pour signifier encore une fois leur mécontentement. En cause, la formation qu'ils estiment délaissée, le choix des couleurs de maillot ou encore l'investissement de certains joueurs qui seraient surpayés selon eux. Alors à 3 jours du choc contre le Real, les esprits parisiens n'ont pas l'air très focalisés sur le terrain. Sarah Loubacouche a recueilli des témoignages de supporters et on les écoute tout de suite.
À l'approche de la rencontre, je ressens rien de particulier, tout simplement parce que le PSG ne m'a rien fait ressentir de particulier ces derniers temps. Il joue avec une envie assez inexistante. Il y a un spectacle, faut le dire, assez ennuyeux. Bon, il continue à plus ou moins gagner, comme contre Rennes hier, mais sinon... pas grand chose.
Le PSG cette saison ne joue pas bien au football. C'est marrant parce qu'il y avait hier le retour des ultras au Parc des Princes et ils ont sorti tout un tas de banderoles qui pour la plupart étaient tout à fait vraies et tout à fait justifiées sur la gestion de ce club et comment les petits remous en interne peuvent déborder, on va dire, sur le sportif. Et je trouve que cette année vraiment c'est assez exacerbé.
Le Real c'est tout un symbole, c'est un club que je respecte pas mal, c'est un bon rival du PSG. Moi je garderai toujours le souvenir de 2019 quand on leur a mis 3-0 avec ce match de fou de Gana Gueye. Pour moi c'est un des meilleurs souvenirs de football. Alors malheureusement j'ai assez peu confiance en notre capacité à réitérer cet exploit de 2019.
J'ai regardé quasiment tous les matchs du PSG cette saison et c'est pas agréable à voir jouer et ça fait pas peur à grand monde. Et quand on va aller se présenter face au Real Madrid qui est quand même une grosse machine européenne, même si c'est pas l'équipe que c'était il y a 5-6 ans, ça fait peur et c'est un gros défi en tout cas.
Ceci étant dit, je connais aussi la capacité de mon club à me surprendre dans ce genre de cas, notamment pour certains rendez-vous européens.
Et je vous dis à mardi quoi, à mardi. J'ai parié mon loyer sur Paris de toute façon.
Un mot maintenant sur le championnat d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne, toujours en compagnie de Marie-Amélie Motte pour RFI.
Le Bayern Munich a sombré contre Bochum, le 11e de Bundesliga, 4-2. Les Munichois étaient déjà menés 4-1 à la mi-temps et le doublé de Robert Lewandowski n'a pas suffi. 26 buts tout de même pour l'attaquant polonais cette saison en championnat. À noter également le succès du Borussia Mönchengladbach, 3-2 contre Augsbourg avec un but de l'international algérien Rami Ben Sebaini. Et puis en Italie, il y avait un match au sommet entre le Dauphin, le Napoli et l'Inter Milan. 1-2 entre les deux équipes. La tête de la Serie A reste très très serrée. L'Inter, Naples et l'AC Milan se tiennent en 3 points. Et enfin en Espagne, le Real Madrid a été tenu en échec par Villarreal. Match nul 0-0 à 3 jours du 8e de finale de Ligue des Champions contre Paris. Le Real évoluait sans Karim Benzema et sans Ferland Mendy. Mais les deux Français seront du voyage mardi.
Rugby avec 2 matchs hier, la victoire du Pays de Galles contre l'Écosse 20-17 et la victoire de la France contre l'Irlande 30-24. Marie-Amélie Motte et Cédric De Oliveira pour RFI.
Cédric, ce match a été indécis jusqu'au bout, mais à la fin c'est bien le 15 de France qui l'a emporté.
Oui, combat immense qu'ont livré les Français et les Irlandais aujourd'hui au Stade de France. Fabien Galthié avait parlé d'un sommet cette semaine. Il a eu lieu au moins dans l'intensité. Le point fort de ce 15 du trèfle et les Bleus, eh bien, ont répondu présent aussi dans les duels, mais surtout en prenant à la gorge ces Irlandais avec une action remarquable dès les premières secondes avec à la baguette évidemment Antoine Dupont, le demi de mêlée qui a été conclure un joli mouvement sur un service donc de son acolyte Romain Tamac. 1 minute et 7 secondes seulement pour marquer cet essai tricolore, donc cet essai très rapide. La charnière a pris ses responsabilités et c'est le 11e essai international pour Dupont, le capitaine de ce 15 de France. Mais derrière, eh bien, les Bleus se sont fait piéger sur le renvoi puisque l'ailier irlandais Mac Hansen a profité d'une mésentente entre Melvin Jaminet et Damien Penaud pour aller intercepter et marquer à son tour. On se dit que l'Irlande ne va rien lâcher, mais les Bleus ont ensuite été plus conquérants. Ils ont marqué 3 autres pénalités pour mener 19 à 7 à la pause, avec un bel écart. Sauf que l'Irlande, eh bien, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Elle a réussi à revenir avec 2 essais coup sur coup en 4 minutes en tout début de seconde période. Il y avait 22 à 21, tout était à refaire pour les Bleus qui ont finalement repris leurs esprits avec un essai de Cyril Baye. Il y avait 6 points d'avance et derrière beaucoup de tension, beaucoup de pression, mais la défense française a finalement tenu. On a même cru à un dernier essai de Melvin Jaminet, finalement refusé à la vidéo. Et donc finalement les Bleus l'ont emporté 30 à 24. Que les Bleus, ils sont leaders, ils sont les seuls à avoir gagné 2 matchs pour l'instant. Et ça fait 12 ans, Marie-Amélie, que ce 15 de France n'a pas gagné. Et à 1 an de la Coupe du Monde, eh bien, ce serait pas mal de pouvoir enfin remporter ce trophée.
Oui, ce serait vraiment une très bonne nouvelle.
Enfin, un mot de tennis pour vous dire que la finale de Rotterdam, c'est ce dimanche entre le grec Tsitsipas et le canadien Auger Aliassime. À Saint-Pétersbourg, ce sera la finale des dames entre Sakari la grecque et Kontaveit l'estonienne. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. h 30 sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on passe maintenant à Europa Voice en compagnie de Christophe Mallet et de Nathanaël Bloch qui nous parle sur le sommet Union africaine-Afrique et le futur partenariat entre les deux continents.
Europa Voice, parler de l'Afrique et de la relation entre l'Europe et l'Afrique, parce qu'il y a des choses qui se passent, et notamment cette visite d'Ursula von der Leyen.
Effectivement, Christophe, on a la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui a rencontré à Dakar le président sénégalais Macky Sall cette semaine. Alors, il faut déjà le préciser, hein, Macky Sall, lui, en ce moment, le président sénégalais, il assume aussi la présidence de l'Union africaine. Donc, si vous voulez, on a Ursula von der Leyen a rencontré sa contrepartie africaine à Dakar. Donc, effectivement, on a eu cette rencontre avec une annonce extrêmement importante qui est la suivante. L'Europe compte mobiliser, Christophe, plus de 150 milliards d'euros d'investissement en Afrique dans les prochaines années. Alors, je vais citer la présidente de la Commission. Elle a déclaré lors de cette conférence de presse: aujourd'hui, je suis fier d'annoncer plus de 150 milliards d'euros par le programme Afrique-Europe. C'est le tout premier plan régional sous Global Gateway. Alors, Global Gateway, Christophe, c'est un programme de financement qui doit mettre en synergie d'une certaine façon tous les moyens de l'Union européenne, des États membres, mais aussi des institutions financières européennes, des agences nationales de développement et évidemment des partenaires privés pour justement financer ces projets de long terme. Donc c'est une annonce extrêmement importante et elle est d'autant plus importante, Christophe, qu'elle s'inscrit quelques jours avant le grand sommet Union européenne-Union africaine qui aura lieu les 17 et 18 février. Et donc elle laisse présager en fait de cette volonté de l'Union européenne et de l'Afrique d'avoir des grands projets de coopération et de développement dans les prochaines années.
Alors, qu'est-ce qu'on sait justement de ces projets et puis de l'argent qui est nécessaire pour développer ces projets parce qu'on sait que bon, l'Union européenne a toujours été présente en Afrique depuis très longtemps politiquement et diplomatiquement. On sait l'influence des Chinois également qui a été très très fort à travers les dernières décennies, peut-être un petit peu différemment maintenant avec la crise du Covid, etc. Est-ce que les cartes sont rebattues en Afrique, est-ce que aujourd'hui l'Union européenne est là-bas également pour dire attendez, nous on est là depuis longtemps, on est un partenaire historique et on veut pas perdre ce lien avec l'Afrique?
Alors Global Gateway, Christophe, c'est un secret de polichinelle, hein, si vous le voulez, c'est-à-dire que tout le monde sait, dans toutes les chancelleries, on sait que c'est évidemment une riposte à ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie tracées par la Chine, c'est-à-dire la manière avec laquelle la Chine étend extrêmement rapidement son influence et sa présence économique et politique en Afrique. Donc ça fait de mystère pour personne que c'est évidemment un projet de partenariat avec l'allié africain, mais c'est aussi une riposte à la politique agressive de la Chine. Ça c'est les premiers éléments. Alors après il y a tout un couvert comme à chaque fois diplomatique, c'est-à-dire que à la fois Macky Sall et Ursula von der Leyen ont évidemment vendu des valeurs communes, hein, entre les deux continents, la transparence, la durabilité, la bonne gouvernance et le souci de bien-être des populations. Là, je cite les propos de la présidente de la Commission européenne. Donc ça, c'est le premier élément. C'est évidemment pour contrer ces nouvelles routes de la soie chinoise. Le deuxième élément, Christophe, c'est qu'on sait que, de toute façon, il y a des dossiers, pour le coup, qui sont inhérents à la position géographique des deux continents européens et africains. J'allais dire, il y a deux dossiers principaux. Il y a d'abord celui de la migration, de la gestion des frontières. On sait évidemment, et on en a parlé dans certains épisodes précédents d'Europa Voice, des crises migratoires, le manque de coopération au niveau européen avec ce qui se passait à Lampedusa. Mais voilà, on sait qu'il y a effectivement besoin que les deux continents s'accordent sur ces questions-là. On a d'abord, en fait, en Europe, de plus en plus une externalisation de la gestion des frontières et une lutte, j'allais dire, pas contre le bout du processus des migrations, mais contre les causes profondes de la migration. Et ça s'inscrit aussi dans ça, Christophe, cette initiative. C'est un peu l'idée que si on arrive à développer sur le continent africain des projets de partenariat, des grands projets d'infrastructure, etc., il n'y aura pas cette fuite de cerveau. Et donc, on prend, si vous voulez, alors, pas le problème, mais on prend la question migratoire à la source et on permet au développement au continent africain de se développer. En Europe, pour parler de cette externalisation de la gestion des frontières, on a l'agence Frontex et on a aussi un accord, par exemple, qui est un accord migratoire entre l'Union européenne et la Turquie qui, lui, a clairement fait reculer justement ces migrations en Méditerranée orientale. Donc d'abord, il y a ce premier élément qui est inhérent aux positions géographiques de l'Union européenne et au continent africain. Le deuxième élément, c'est les questions évidemment de sécurité, hein, qui sont aussi liées à cette proximité géographique. Il y a eu beaucoup de coups d'État ou de tentatives sur le continent africain. Il y en a eu 7, Christophe, ces 18 derniers mois. Et on sait que la France est évidemment engagée. Alors la France, elle est engagée au Mali avec les opérations Serval puis Barkhane, mais aussi elle est engagée en Afrique parce qu'elle a des liens historique, elle est considérée souvent comme le gendarme de l'Afrique, et donc c'est aussi l'idée de voir c'est quoi les prochaines étapes de cette coopération sécuritaire avec des dossiers qui sont aussi plus récents comme celui de la piraterie et comme celui évidemment du terrorisme djihadiste. Donc vous voyez, on a sur ces deux éléments, j'allais dire, quelque chose qui est vraiment inhérent à cette relation, à cette proximité géographique entre l'Union européenne et l'Afrique, et puis après il y a plein d'autres dossiers, encore une fois, comme celui de la coopération, des grands projets d'infrastructure, etc. Donc, il y a effectivement beaucoup de pain sur la planche entre les deux entités. Et l'idée, et là je reprends les mots de Macky Sall, c'est de voir comment est-ce qu'on peut avoir un partenariat rénové, une nouvelle relation entre les continents européens et africains.
Notre chronique consacrée à présent à un personnage en lien avec l'actualité focus aujourd'hui sur le professeur Luc Montagnier, co-découvreur au début des années 80 avec son équipe scientifique du virus du sida. Il s'est éteint cette semaine, il était âgé de 89 ans. En 2008, Luc Montagnier avait reçu pour ses travaux sur le sida le prix Nobel de médecine. Mais ces dernières années, ses prises de position étaient devenues polémiques. Retour sur son parcours avec des archives de l'INA et des extraits de France Télévisions.
Nous avons appris le décès du professeur Luc Montagnier à l'âge de 89 ans. Le biologiste et virologue français était connu pour ses travaux sur le virus du sida.
Les chercheurs français de l'Institut Pasteur ont franchi un grand pas dans la lutte contre le sida, cette mystérieuse maladie qui fait des ravages, notamment aux États-Unis dans les milieux homosexuels. À l'Institut Pasteur, le professeur Montagnier et son équipe ont réussi à identifier le virus du sida.
Oui, en fait, les États-Unis ont aussi un potentiel formidable pour trouver le virus du sida et c'est vous qui l'avez trouvé.
Oui, alors là, il y a d'autres, évidemment, il n'y a pas que ça.
Donc,
ça facilite. Oui. Les moyens matériels facilitent, mais effectivement, il faut se trouver au bon endroit et au bon moment. Mais enfin, les Américains s'y trouvent très souvent aussi. Il faut dire que la science américaine est quand même toujours la première du monde.
Oui, mais alors à ce propos, donc vous racontez, bien entendu, c'est passionnant comment vous avez découvert le virus, enfin le rétrovirus du sida. Mais quand on lit votre livre, on se dit qu'il y avait vraiment que vous et votre équipe pour y croire.
Au début, oui. Ah oui. Parce qu'effectivement, personne ne pensait à ce type. Il y a plusieurs familles dans ces rétrovirus, oui. Et personne ne pensait à cette famille. Et effectivement,
donc là, l'hypothèse de départ était la bonne. C'est ça qui vous a fait gagner
du
temps.
Non, l'hypothèse de départ était l'hypothèse des autres, en fait. C'était l'hypothèse d'un rétrovirus proche d'un virus qui existait déjà, qui était découvert par l'équipe de Gallo, qui s'appelait l'HTLV. Oui. Et on a commencé à chercher aussi un HTLV.
Mais qu'est-ce qui vous a fait gagner, vous ?
Eh bien, c'est que, je pense, on avait un esprit ouvert, si vous voulez, on n'avait pas d'a priori, alors que l'équipe américaine voulait à tout prix trouver un virus analogue à celle qu'ils avaient déjà trouvé, à celui qu'ils avaient déjà trouvé. C'est ça la grosse différence.
Anne-Christine Roth.
Luc Montagnier était l'un des scientifiques français les plus connus, l'un des plus controversés aussi.
20 mai 1983, à l'Institut Pasteur de Paris, l'équipe du professeur Luc Montagnier annonce la découverte du virus du sida.
Et c'est une première mondiale. En identifiant le virus responsable de cette maladie encore méconnue, son équipe dame le pion aux chercheurs américains. Cette découverte est couronnée par de nombreux prix, dont le plus prestigieux, le Nobel de médecine. Luc Montagnier le reçoit avec sa consœur Françoise Barré-Sinoussi en 2008.
Dans les rues de Stockholm, le professeur Montagnier, co-découvreur du sida, n'a que quelques pas à faire. Sa limousine est avancée. Cette semaine, la Suède fête ses stars, les Nobel. Et cette année, trois sont français. Françoise Barré-Sinoussi, première femme à décrocher un Nobel de médecine. Jean-Marie Le Clézio, Nobel de littérature. Une semaine de réception, de galas, de conférences. Le faste du prix le plus prestigieux du monde.
Mais le chercheur avait aussi enchaîné les prises de position qui avaient d'abord étonné, puis agacé ses pairs. D'abord, l'extrait de papaye prescrit au pape contre la maladie de Parkinson. Il s'était fait le relais de thèses anti-vax comme le lien supposé entre vaccination et mort subite du nourrisson. Une défiance vaccinale qu'il avait réitérée lors de la crise du Covid. Des prises de position qui, au fil des ans, l'avaient coupé d'une grande partie de la communauté scientifique.
Et nous avons en ligne, en direct, notre collègue Christophe qui se trouve à Werribee. Christophe, vous pouvez m'entendre ?
Ouais, tout à fait. J'espère que vous pouvez m'entendre surtout, parce qu'il y a quand même du bruit ici. C'est un peu la fête quand même dans le parc.
Absolument. Vous êtes là pour les concerts de So Frenchy, So Chic. C'est un retour pour la première fois dans ce coin, comment dirais-je, chouette du Victoria. C'est à Werribee Mansion. Alors, quelle est l'atmosphère qui règne ?
Bah c'est super en fait, je pense qu'il y a une vraie atmosphère bien joviale parce qu'on sait qu'avec le Covid ça avait dû être annulé pour une fois, il y avait eu un lunch qui avait été organisé un peu plus près de la ville, mais là c'est vraiment retour à l'essence hein, de où So Frenchy So Chic est et les gens ils font à l'australienne et on a sorti les pique-niques, les chapeaux, les parapluies, enfin les parasols plutôt, tu vois le premier groupe est passé sur scène et puis on attend bien sûr Fefe qui est le headliner de ce festival qui sera à peu près vers 18h30 je crois.
Absolument, donc il revient en Australie après une absence de 3-4 ans, donc il sera de la partie.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et racontez-nous un petit peu les mesures peut-être sanitaires qui sont en place. Est-ce que... c'est OK de circuler.
À Melbourne, on a quand même vraiment de la chance, c'est vrai, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est un festival à l'extérieur, donc tout le monde est là pour s'amuser, il faut garder un petit peu ses distances, il y a quelques gens qui vous rappellent ça, mais bon, en réalité, c'est quand même quelque chose dans un parc, donc c'est vraiment le moment de venir vous amuser, il fait beau, il y a un tout petit peu de vent, mais on a surtout un gros line-up en termes de musique, donc c'est vraiment, on sent que ça libère un peu les choses, et c'est vraiment dommage pour nos amis de Sydney qui pourront pas avoir cette expérience, mais bon, si vous êtes à Melbourne, pourquoi pas venir en profiter, justement. C'est un petit plus que Melbourne a sur Sydney aujourd'hui.
Et j'imagine aussi que vous avez eu la chance d'emmener vos gamins.
Ouais, je suis pas tout seul, hein. Il y a plein de gens qui ont toute leur famille avec eux, parce que c'est vrai que c'est un événement super familial. C'est à la fois un événement de tout ce qui est français et de la classe française et de la musique française, mais c'est fait avec ce qu'on aime en Australie, c'est-à-dire les pique-niques, les gens qui juste se mettent dans un coin, qui boivent 2-3 verres de vin gentiment sans se prendre la tête. Non, je suis vraiment moi très content de revenir, parce que c'est un moment que j'étais pas venu au Sofrenchi Sochik, et voilà, je suis très content de passer un bel après-midi. J'espère que Jean-Noël, à la fin de l'émission, vous allez pouvoir raccrocher le micro et venir nous rejoindre quand même.
Absolument. Merci Christophe d'être intervenu et passer un petit bon moment. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci Jean-Noël. Merci à tous.
Et on passe à un rappel des grands titres de ce 13 février. Le gouvernement australien ordonne au personnel de l'ambassade d'Australie de quitter la capitale ukrainienne. Le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud entre encore plus en minorité avec la perte du siège de Bega hier aux élections partielles de cet État. Et puis les convois des libertés à travers le monde et une grosse foule hier à Canberra de ses opposants à la vaccination. Voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS French. Et je vous laisse en compagnie d'Odette qui nous interprète « Laisse tomber les filles ». Elle est à l'affiche de « So Frenchy, So Chic ».
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.